Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
C'est donc le résultat du jour, résultat du second tour des législatives. Paul peut l'avait vu venir, mais le nouveau Front Populaire est en tête à l'Assemblée.
Oui, c'est une situation vraiment inattendue, Rémi, avec trois blocs politiques identifiés. Aucune majorité ne se dégage vraiment au lendemain de ce scrutin. Avec 182 députés, le nouveau Front Populaire est la force politique principale de la nouvelle Assemblée nationale, mais bien loin de la barre des 289 élus qui représenteraient la majorité absolue. Mais avec une trentaine de députés de plus que la NUPES en 2022, on peut dire que la dynamique est plutôt positive. Alors même s'il est le parti qui a obtenu le plus de sièges hier soir, ces résultats sont plutôt négatifs. À l'inverse, pour le Rassemblement National, alors qu'il attendait une majorité absolue au soir du premier tour, le parti dirigé par Jordan Bardella obtient 143 sièges. Finalement, la percée la plus importante de son histoire se vantait pourtant hier le patron du parti, le RN, qui termine en tête des voix avec 32% des suffrages et plus de 8 700 000 électeurs. Troisième bloc, enfin, l'ex-majorité présidentielle avec 23,15% des suffrages. Elle limite la casse par rapport au premier chiffre qui était annoncé en début de semaine dernière. Grâce au désistement et à la mobilisation de l'électorat de gauche, la coalition Ensemble comptera 163 élus dans la nouvelle Assemblée. Autre satisfaction pour la Macronie exprimée hier par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Ce soir, aucune majorité absolue ne peut être conduite par les extrêmes.
Résultat des législatives, êtes-vous euphorique ou avez-vous la gueule de bois? Vous nous appelez au 3216. Emmanuel, dans quel état d'esprit es-tu ce matin? Enfin, ce midi.
Je dirais pas euphorique, j'irais un énorme soulagement. Mais j'irais pas jusqu'à l'euphorie.
C'était le titre de Libération ce matin. Ouf.
C'est ouf. C'est ouf. Ouais. Sans doute une des meilleures unes de Libé. Ils sont quand même connus pour ça. Un énorme soulagement, mais je peux pas dire que je sois euphorique parce que Paul vient de le rappeler. Le Rassemblement National est quand même le premier parti en nombre de voix. On a plus de 10 millions. Et puis, mais au-delà des chiffres, il y a quand même toute une révolution qui s'est faite ces dernières semaines. Une révolution culturelle, déjà. Je pense que l'extrême droite a quand même gagné la bataille culturelle, dans le sens où c'est devenu un parti comme un autre. Pour les médias, pour les gens. En 2022, on avait 4 millions de personnes qui votaient RN. En 2024, elles sont 12 millions. Donc voilà, il y a quand même
le Front Républicain qui a fonctionné.
Il a complètement fonctionné, mais c'est une coalition. Et bien sûr, il a fonctionné, mais on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas un sursis avant 2027, puisque donc
on en parle à 14
heures. Le RN est devenu un parti comme les autres, et on sait notamment que dans les médias qui appartiennent au groupe Bolloré, il y a eu quand même tout un tas de fake news qui ont été distillés, qui sont devenus des news, tout simplement, qui n'ont pas été démontés, et ceci de manière donc totalement sans conséquence. Et puis il y a aussi autre chose, dans la société, on a quand même bien vu que la parole s'est complètement libérée, il y a une sorte des digues qui ont lâché, notamment sur le racisme, sur des thèmes comme le racisme, on a vu que ça avait déferlé partout, même dans les rues, des gens qui ont été des militants politiques de gauche ou de centre qui ont été physiquement agressés par des gens d'extrême droite, des agressions physiques recensées dans toute la France. On a un journaliste de Karim Rissouli qui a reçu des menaces de racisme à domicile. Et puis, il faut voir aussi que le RN, il a imposé ses thématiques. Ils ont quand même imposé les thématiques de l'immigration et de la sécurité au cœur des débats, alors qu'il n'y a pas eu d'explosion de la criminalité en France, et que c'était pas du tout la première préoccupation des Français. Ils ont quand même réussi à imposer leur vocabulaire, leurs thématiques. Et moi, je vous dis que ça va laisser des traces dans l'extrême droitisation du débat pour les semaines et pour les années qui viennent. Et je pense qu'on peut être inquiet pour 2027.
Les résultats des législatives, êtes-vous euphorique ou avez-vous la gueule de bois? Vous nous appelez au 32. Daniel, gueule de bois ou euphorique?
Gueule de bois, je vois pas comment on peut être euphorique ce matin. Personne a gagné.
J'ai vu des gens euphoriques hier à la télé.
Oui, mais basé sur quoi en fait? Il n'y a pas de programme politique. Est-ce que les préoccupations et les soucis des Français ont disparu? Non. Qui va y répondre? On ne sait pas. On a les fameux trois blocs. Ça, on s'y attendait de toute façon à cette France qui est complètement fracturée.
Que la gauche soit devant, on s'y attendait pas.
Oui, ça c'est vrai, mais elle est devant sur un programme politique ou elle est devant par le jeu des arrangements et des désistements? C'est ça la vérité qu'il faut dire. C'est que quand on regarde le pourcentage de voix, rien n'a réellement changé. On est toujours autour de 33, 34, 35 pour le RN. La gauche, dans un bloc, tous ensemble, tourne autour de 22, 23, 24 par là, et le parti, on va dire, du centre macroniste autour de 20, c'est eux qui ont un petit peu perdu, mais comme ils ont limité la casse, ils veulent se voir un petit peu vainqueurs, donc tout le monde cherche à tirer un petit bout de couverture, mais en fait, la couverture, elle est complètement déchirée, elle a pris feu, la France est totalement ingouvernable, et ça, on le savait. Et quand tu regardes et que tu entends que LFI veut envoyer un Premier ministre LFI alors qu'ils ne font même pas 10%, mais avec quelle prétention ils peuvent demander quelque chose de cet ordre-là. Mmh. Ils ne représentent personne, ils représentent 10% des Français. Mmh. Ils font autant de sièges limite que LR. Mmh. Donc on ne sait pas d'où peut venir le Premier ministre, comment il va obtenir une majorité, comment la France peut avancer. Donc on part pour 3 ans où il va rien se passer et on devrait être euphorique ce matin. On a juste appris un truc, c'est qu'en grande majorité, les Français veulent pas du RN. Ok, super. Et après, on fait quoi après ça? Ça enlève pas les préoccupations des Français. Hein.
Perico, comment ça va?
Ça va très bien. La situation est très intéressante. Le peuple français s'est exprimé à la demande du président de la République.
Massivement.
Qui lui a dit, je vous fais confiance. Vous vous souvenez, il a dit, c'est un vote de confiance, je vous fais confiance. C'est pas les Français qui font confiance au président. On a la chance d'avoir un président qui nous fait confiance. Et les Français lui ont répondu, monsieur le président, nous sommes 78% à ne pas vous faire confiance. Il a posé une question précise. Renvoyez-moi une majorité qui vous permette de rétablir la confiance dans ce pays. Ils l'ont fait de façon massive, avec une forte participation et dans des termes sans aucune équivoque. Ils lui ont dit, monsieur le président, nous ne voulons plus de vous. Allez-vous-en. Ce scrutin peut pas vous chasser parce que c'est pas une présidentielle. Mais vous nous avez posé une question et pour parler vulgairement, cassez-vous, monsieur le président. Allez-vous-en. Déjà là, il y a un problème dont il va falloir tenir compte. Deuxièmement, j'ai connu le Front Républicain. Je suis vieux. Front Républicain, c'était au départ contre les candidats monarchistes qui souvent avaient la majorité. Sous la Troisième République au 19e siècle, quelquefois, à droite.
C'est très bien.
Les Républicains s'unissaient.
Troisième République, t'as pas connu quand même, Péricourt?
Non, sûrement. Mais j'ai connu
le début.
Voilà. Mais j'ai connu du Front Républicain jusqu'au Parti Front National avec Jean-Marie Le Pen. Ouais. Voilà. Mais il représentait pas un danger.
Pas si loin que ça, la Quatrième République.
Voilà. Donc je ne voudrais pas qu'on insulte le Front Républicain, qui est une vraie valeur démocratique française, qui incarne notre démocratie, en considérant que le Front Républicain, ça aurait pu être Mathilde Panot, Raphaël Arnaud, Louis Boyard. Mais c'est pas le Front Républicain. Je vous en supplie. Ton soulagement, je m'en réjouis pour toi. La France est dans une situation catastrophique.
Bah évidemment.
Ce soir.
Évidemment.
Mais alors, parler de Front Républicain pour l'alliance de ces gens qui ont voulu faire barrage à une partie du peuple français, 32%. Le grand gagnant ce soir, c'est qui? Hier soir, c'est le Rassemblement National. On va parler français. Comment ça peut le soutenir de l'émission? On va pas se mentir. Ils étaient pas prêts pour Matignon.
Ah bah c'est sûr.
Et hier, je les ai vus plutôt soulagés. Ils auraient préféré 210 que 143, je suis d'accord. Mais ils savaient bien que Bardella, 28 ans, il n'était pas prêt pour Matignon. On a bien vu comment ils ont constitué, piège du président de la République, pour tous les partis. Vous avez 3 jours pour nommer des candidats. Ils ont raclé les fonds de tiroir. Il y avait beaucoup de candidats qui n'étaient pas prêts. Là, ils ont une légitimité à l'Assemblée nationale. Ils sont le premier parti de France en voix. Ça fait mal, Emmanuel, n'est-ce pas? Ça fait très mal.
Bah oui, bien sûr.
Oui, voilà. Mais c'est le peuple français qui l'a décidé. Ils ont 3 ans. Pour se préparer, ils vont faire un vrai programme, ils vont voir ce qui se passe et surtout, ils vont prouver que les autres partis, le barrage de Castor qui les a empêchés de gagner, vous êtes à l'œuvre, c'est vous qui avez les leviers, voyons ce que ça va donner. Je peux vous dire que là, Madame Marine Le Pen, en 2027, elle a un boulevard devant elle. S'il se passe rien...
Mais non, Perico.
C'est mon opinion, donc je ne suis pas du tout rassuré. Oui, je sais pas, une tour.
Allez, on va aller au tour de 16.
On fait un cadeau.
Daniel, on va avoir le tour de
16.
Je ne peux pas te répondre, je te répondrai après.
On leur fait un cadeau énorme.
Tu connais bien RMC parce que c'est la priorité au 32-16. Juste avant, Paul, un mot parce que l'actualité.
Pour l'instant, Emmanuel Macron a demandé à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays.
Voilà. Et notamment les JO qui arrivent.
Est-ce qu'on peut faire un pari de 30 secondes? Jusqu'à quand?
On n'a pas l'info.
Je peux te donner une date?
Après les JO. Après les JO.
15 septembre.
Ouais, c'est ça.
On prend date.
On va au 32-16.
Si c'est pas 15 octobre.
On va au 32-16. Résultat des législatives. Êtes-vous euphorique ou avez-vous la gueule de bois? On retrouve Laurent dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Laurent.
Et bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Ouais, je peux me tromper, mais à votre voix, Laurent, c'est plutôt gueule de bois, non?
Ouais, bah après c'est gueule de bois parce que la France a perdu toute démocratie et quand j'entends Emmanuel qui se réjouit d'un front républicain qui alors ça veut dire que contre le racisme, la xénophobie et tout ce que vous voulez, Bon, en fait, c'est comme s'il y a un bon racisme et un mauvais racisme, en fait, quand même, parce que dans le fond, ben oui, il y a un bon racisme.
J'ai jamais dit ça, moi, je dis à situation de crise, solution de crise.
Non, c'est ce que dit Laurent.
Ah, bon, d'accord.
Je le dis parce que dans les candidats de Front Populaire, il y a des gens qui sont racistes, donc il y a un bon racisme et un mauvais racisme.
Évidemment.
Moi, je vais vous expliquer un truc. Moi, je fais partie du plus grand, on va dire, parti de France, et les cocus.
Vous avez voté hier, Laurent?
Oui, j'ai voté.
Je peux vous demander pour qui?
J'ai voté blanc.
D'accord.
Ouais.
Parce que pourquoi? Parce que moi, je suis un vrai socialiste. Voilà, un socialiste républicain. Tous les socialistes ont baissé leur froc. Donc déjà, on est...
Bravo, monsieur, niveau, bravo. Là,
parce que déjà, on aurait dû profiter de l'élan de Glucksmann pour se démarquer vraiment.
Bravo.
Avec des gens qui ont tous baissé leur froc.
Et moi, qui ont baissé leur froc, disons les choses, Laurent, devant la France Insoumise.
Mais bien sûr.
Pour aller sauver des places, bien sûr.
Je ne donne qu'un exemple. Mme Delga, en Occitanie, qui avait fait une bataille contre la NUPES et qui, là, est venue s'allier au Front Populaire. C'est une honte. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'était, voyez, au premier tour, voilà, j'avais le choix entre trois candidats. LFI, RN et Ensemble. J'ai voté Ensemble parce que je me suis dit, franchement, c'est les seuls qui, voilà, entre le diable et Satan, ben, je vote aucun des deux, je prends celui qui me semble le plus consensuel. Je vote Ensemble. Ensemble arrive troisième, mais quand même avec 21%. Ça veut dire, et cette nana, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est désistée. Voilà, donc deuxième fois cocu, puisque en fait, elle a craché la gueule à un quart de la population des partis.
Absolument.
Voilà. Tout ça pourquoi?
C'est les arrangements, c'est ce que je disais, ce sont les arrangements, Laurent. Vous avez raison de le dénoncer.
Et quand j'entends M. Marty sur les grandes gueules et Emmanuel qui se réjouit en disant que ça, c'est de la démocratie, mais c'est.
Mais c'est pas de la démocratie, c'est de la.
On crache à la gueule.
Mais bien sûr.
On crache à la gueule aux Français.
Alors, c'est pas de la gueule de bois, Laurent, on l'entend, c'est de la colère.
Non, mais c'est dégueulasse. Franchement, moi,
c'est
je
suis.
Moi, je vais vous dire une
chose. Mais Rémi, il faut écouter ce message. Hein.
Ouais. Vous savez ce que j'ai dit à ma femme hier? Franchement, alors qu'on était en train de manger avec des. Enfin, voilà, on passait plutôt un grave moment. Ouais. Moi, je suis à la frontière de l'Espagne. J'ai envie de partir en Espagne. Franchement, hein, je me dis, mais attendez, qu'est-ce que je vais continuer à travailler là, dans un pays où, en fait, chacun pense qu'à sa gueule. Il n'y a aucun homme politique qui se dégage vraiment, qui dit, voilà, on a des idées à défendre. Non! C'est chacun sa gueule, chacun son siège, on est prêt à tous les arrangements possibles et imaginables pour garder son poste. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là?
Et on va s'allier avec des gens dont on disait du mal une semaine avant, et tout ça sur le dos des Français.
Merci Laurent d'avoir été avec nous, Laurent qui nous appelait depuis les Pyrénées-Orientales. Arnaud Benedetti nous rejoint, bonjour Arnaud Benedetti.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC Story. On était déjà ensemble la semaine dernière.
Oui.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir », RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation paru aux éditions Michel Lafon. Arnaud Benedetti, ce point d'interrogation, il reste?
Oui, il demeure clairement. On a tous mésestimé, enfin beaucoup avons mésestimé la mécanique des désistements républicains qui a indéniablement montré une efficience certaine ce dimanche. D'ailleurs, beaucoup d'instituts de sondage eux-mêmes n'avaient pas vu cela. La réalité, c'est que...
Ça vous a surpris vous-même, Arnaud Benedetti?
Oui, ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'on pensait pas que les reports de voix seraient aussi mécaniques. Donc il y a une opérationnalité encore du Front républicain, même si quand même, il faut le constater, elle s'érode, parce que bon, demain, le Rassemblement national sera le premier groupe parlementaire arithmétiquement à l'Assemblée nationale, ce qui constitue un progrès. Il a progressé en voix. Donc de ce point de vue-là, on a, disons, contenu avec le Front républicain l'accès du Rassemblement national à une majorité relative ou à une majorité absolue, mais on n'a pas contenu sa progression. Donc ça, c'est, je crois, une réalité aussi politique.
En nombre de voix, il reste le premier parti de France, là.
Il reste le premier parti de France. Et quand on regarde les duels, il y a une centaine de duels à peu près qui se jouent entre 51 et 48. Donc l'écart est très faible. Beaucoup de candidats ont été vaincus, en effet, d'extrême justesse. Mais bon, peu importe. La réalité, c'est que aussi le Rassemblement national a vraisemblablement, j'allais dire, péché, si ce n'est par un excès de confiance, mais par un défaut de professionnalisme. On l'a vu notamment avec un certain nombre de profils de candidats qui, manifestement, c'est le moins qu'on puisse dire, en étant extrêmement pudique, étaient pour le moins peu préparés à cet exercice. Et ensuite, il a aussi, d'une certaine façon, procédé à une forme de rediabolisation durant sa campagne législative, notamment avec cette controverse quand même sur la binationalité qui, d'une certaine façon, a été un
braqué un certain nombre de Français.
Un carburant non négligeable dans la stratégie de diabolisation du Rassemblement national, ce qui explique vraisemblablement, peut-être, mais pas seulement, la raison pour laquelle le Rassemblement national a vu, d'une certaine façon, sa dynamique stoppée ce dimanche. Enfin bon, après, la réalité, c'est la réalité politique et la réalité parlementaire dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Et si vous voulez quand même, l'instabilité, l'ingouvernabilité dans laquelle, malgré tout, nous sommes entrés, parce qu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il faut être clair, hein, c'est unique ce qu'on est en train de vivre sous la Ve République, est un facteur qui, bien évidemment, peut, sur la distance, profiter au Rassemblement national s'il n'y a pas une réponse politique forte. Mmh. Mais on ne voit pas trop comment cette réponse politique forte peut émerger au regard des rapports de force à l'Assemblée nationale.
Rapidement, Arnaud Benedetti, Perico Legas veut vous poser une question.
Bonjour Arnaud. Est-ce que vous pensez que l'assagissement de Bardella, montrer patte blanche sur toutes les normes, la bonne présentation, un peu de recul sur certaines mesures, a pu dissuader une partie de l'électorat du RN qui comptait justement sur le côté très contestataire, très offensif, en disant « Ouh là là, ils se normalisent, ils sont en train de nous lâcher ouais, ». Est-ce qu'ils ont pu perdre quelques voix ?
Il y a eu pas mal de polémiques.
Je crois pas que ces changements de pied, qui ont été des changements de pied considérés parfois comme des renoncements, ont véritablement eu un impact. La réalité, c'est que de toute façon, il conserve son électorat. Regardez, entre les deux tours, il progresse en termes de voix. Absolument. Donc, en la matière, je ne crois pas que ça ait joué. Ce qui a joué vraisemblablement, c'est que, encore une fois, la stratégie du Front républicain a pu s'appuyer sur des éléments durant les deux tours qui lui ont permis d'assurer une grande opérationnalité d'un certain nombre de désistements. C'est ce qui explique vraisemblablement le fait que le Rassemblement national soit en deçà de ce que les estimations en projection de siège, et il faut le dire, les estimations en projection de siège, je le dis parce que j'entends beaucoup de choses sur les sondeurs, sont extrêmement difficiles à faire pour toutes les élections législatives, et c'est la raison pour laquelle finalement, ils n'avaient pas prévu ce renversement dans l'ordre d'arrivée des différents courants politiques qui s'affrontaient ce dimanche.
Une dernière question, Arnaud Benedetti, est-ce qu'aujourd'hui, le premier parti de France, c'est le parti de la frustration ? Quel que soit le bord, je pense évidemment aux électeurs RN, mais je pense aussi aux électeurs. On a entendu tout à l'heure, il y avait Laurent, socialiste, qui était avec nous, très en colère. Je pense qu'il y a encore des électeurs de macronistes qui doivent être frustrés. Il y a aussi peut-être des électeurs comme Laurent, encore une fois, à gauche, qui ne veulent pas d'une alliance avec LFI, qui ne croient pas à une possibilité que le nouveau Front Populaire tienne. Est-ce que c'est le premier parti de France aujourd'hui, le parti de la frustration ?
Vraisemblablement, parce que si vous voulez, l'addition des contres qui a prévalu dans ce second tour de l'élection législative, ça ne permet pas de faire du pour. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'il y aura une grande difficulté à pouvoir mettre en place une majorité et un gouvernement et une coalition. Donc il y a certainement beaucoup de frustration et beaucoup de ressentiments un peu partout qui risquent de s'exprimer, d'autant plus que c'est vrai qu'on a un mode de scrutin. Si on avait été en Angleterre, si on avait été au Royaume-Uni, le Rassemblement national, avec le mode de scrutin qui est le mode de scrutin de nos amis britanniques, serait majoritaire. En l'occurrence, c'est pas le cas en France. On a un mode de scrutin qui est un mode de scrutin majoritaire, uninominal à deux tours, qui sert de couperet. Donc, en effet, on a les conditions pour aujourd'hui une réactivation d'un certain nombre de ressentiments dans une société française qui est pleine de colère. Et donc, c'est le risque.
Ça risque de rien arranger.
La difficulté, c'est qu'en plus, quand vous avez un pays qui devient ingouvernable, le ressentiment peut s'accumuler. Et c'est en effet un des défis majeurs auxquels nous allons devoir être confrontés dans les mois qui viennent.
Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de « Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire » pour l'interrogation aux éditions. Michel Lafond, dans un instant, on continue de parler de ces résultats des législatives, de votre état d'esprit. Il y a Cyril qui est avec nous au 32-16. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Vous nous appelez depuis le Loiret, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
On va marquer une pause, Cyril. Je vous reprends tout de suite après. Dites-moi juste, là, en ce moment, vous êtes euphorique ou c'est la gueule de bois ?
Moi, je suis entre les deux. J'appellerais ça un déni de démocratie.
Bon, vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
La suite d'Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. On continue de parler du résultat des législatives. Dans quel état êtes-vous, euphorique ou gueule de bois ? Vous nous appelez au 32-16 et on retrouve Cyril. Rebonjour Cyril.
Oui, rebonjour.
Bon, depuis 5 minutes, vous êtes toujours dans le Loiret, j'imagine ?
Toujours pareil, j'ai pas bougé.
Vous faites quoi dans la vie, Cyril ?
Voilà, je suis commercial.
D'accord. Et tout à l'heure, vous me disiez, je vous ai posé la question, euphorique ou gueule de bois, vous m'avez dit les deux, et surtout déni de démocratie, expliquez-nous.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on on a refait un petit peu comme il nous avait fait Sarkozy à l'époque avec l'Europe, Maastricht. Oui pour Maastricht, non pour Maastricht, ce sera oui. Voilà. Et là, ils ont fait pareil avec les Français, là, pareil. Ils sont arrivés, on a quand même 12 millions de Français qui ont voté Rassemblement National, on a des gens...
Ouais.
Ah, ça ne nous intéresse pas, on change les règles. Hop, et on a changé...
Bah, les règles, elles étaient déjà en place.
Les magouilles de désistement complètement des poutous qui vont à l'extrême avec les Mélenchon, qui vont complètement avec le gouvernement et tout.
Je peux vous demander, Cyril, que ce soit clair, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais pour qui vous avez voté ?
Moi, j'ai voté Front National. Alors, pareil, quand j'entends tout le monde, les Front National, ce sont que des gens racistes. C'est pas vrai. Nous sommes des Français qui bossons, qui cotisons et qui sommes pour l'avancée de la France. C'est-à-dire que moi, dans mon idée, un étranger qui vient en France, qui s'insère, qui m'oblige pas avec ses règles à lui, qui travaille, qui est là, mais il est bienvenu, au contraire, il est bienvenu. Une immigration choisie, faite correctement, mais avec plaisir, il n'y a pas de problème. Tout de suite, on dit c'est des racistes. Non, c'est pas vrai. C'est pas normal que vous avez des gens qui, comme j'avais déjà dit une fois, qui se battent pour la France, contre tout, puis les retraités, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et qu'un étranger qui arrive de je sais pas d'où, on vient, on lui donne tout. Non, c'est pas possible. Là, partagez, oui, vous partagez quand vous avez un gâteau, mais quand il n'y a plus de gâteau, on est à l'os. On partage quoi ? Il n'y a plus rien à partager. Il n'y a pas d'argent, mais on donne. On ne peut pas faire ça. Là, je vois les Français, comment ils sont pris pour des idiots. Quand on voit Elisabeth Borne qui nous a passé des 49-3 en rafale, elle s'est foutue de la gueule du monde. Les Darmanins, ils sont foutus de la gueule du monde. Et on a été les voter pour eux.
Ils ont été réélus tous les deux.
Mais les gens, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ?
Cyril, on n'a pas le droit d'écouter qui n'existe plus.
La preuve que si, il est avec nous au 32-16, Daniel. Mais c'est intéressant, votre sentiment, Cyril. Encore une fois, la question qu'on a posée ce matin, c'était euphorique ou gueule de bois. Là, ça fait Laurent, tout à l'heure, électeur socialiste. Colère. Cyril, électeur MN.
Vrai socialiste, colère. Pas un lâche socialiste. Bon.
Colère, en tout cas. C'est la colère, en tout cas, qui prédomine pour l'instant au 32-16.
Parce que quand t'es en colère, tu le dis, et quand t'es content, souvent, tu le dis pas. Quand t'es en colère,
hier, on a entendu.
Il va y avoir des gens contents face à une France ingouvernable. Franchement, faut être débile.
Hier, il y a eu des défilés dans pas mal de villes de France, d'électeurs de gauche qui étaient
heureux.
Le président de la République. Le président de la République.
C'est pas une politique, ça.
Le président de la République a volé. Le président de la République a volé une élection importante.
Il y a des institutions. Il a fait qu'utiliser les institutions.
Non, la méthode. Change, Rémi.
Mais il n'a rien fait d'illégal, faut faire attention à ce qu'on dit,
Donc, il a volé politiquement une élection totalement légale. Il l'a volé parce qu'une élection législative, une assemblée ne se dissout que s'il y a une crise à l'intérieur du pays, ce qui n'était pas le cas. Tu laisses le temps d'une campagne, tu présentes des projets et les Français choisissent projet contre projet pour savoir dans quelle société ils veulent vivre. Là, on leur a dit, vous faites barrage. C'est un tiers du peuple français qu'il faut exclure de la nation. Il faut les empêcher de gouverner, il faut les empêcher, ce sont des gens monstrueux. Mmh. Et on fait ça avec qui ? Avec des gens qui sont aussi monstrueux, si ce n'est plus. C'est pas de la démocratie. Ça, c'est un crachat à la gueule de Marianne. Voilà. Ce soir, elle est crachée à la gueule.
Et comment on sort de ça ?
Ah, tu vas voir.
Ceux qui sont soulagés aujourd'hui, on parle longtemps.
Ce
qui nous intéresse là pour l'instant, c'est l'état d'esprit de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. On a entendu Laurent, Cyril, la colère. Ah, merci d'ailleurs à Cyril d'avoir été avec nous. Il nous appelait depuis le Loiret. Farid nous rejoint. Bonjour Farid.
Oui, bonjour.
On est dans les Hauts-de-Seine, Farid.
Oui, c'est ça. Bien court.
Très bien. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Je vous pose la même question qu'à tous. Euphorique ou gueule de bois, Farid ?
Je suis circonspect, mais déjà, merci de laisser la liberté d'expression parce que moi, je vais taper un peu sur les médias.
Allez-y.
Si vous l'avez remarqué. Avant le premier tour, on a beaucoup tapé sur le nouveau parti du Front Populaire. Et entre le premier tour et le deuxième tour, on a beaucoup tapé sur le RN. Mmh. Donc moi, j'ai l'impression que les gagnants, ce sont les partis macronistes. Parce que en ostracisant aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite, qui c'est qui a gagné ? C'est Macron, c'est LR et Ensemble. Et moi, j'aurais préféré, en tant que sympathisant de gauche, j'aurais préféré de voir une majorité soit de l'extrême gauche, soit de l'extrême droite pour que ça change.
Ah bon ?
Parce que... Oui, pardon ?
Allez-y, Farid. C'est Daniel qui réagissait.
Vous pouvez continuer. Enfin.
Allez-y, Farid.
Oui, donc parce que j'ai l'impression qu'on a, je sais pas votre sentiment, mais j'ai l'impression qu'on a trois blocs politico-médiatiques dans le pays. Le service public qui est avec la gauche. Le groupe de Vincent Bolloré, on le sait tous, Vivendi, qui est avec l'extrême droite, et un bloc centriste, c'est-à-dire les médias qui appartiennent à Rodolphe Saadé, Bernard Arnault, Martin Bouygues, qui sont pour la Macronie. Et j'ai l'impression que ce sont eux qui ont gagné. Parce qu'en tapant sur l'extrême gauche et en tapant sur l'extrême droite, finalement, c'est les Français qui perdent, parce que les Français, ils voulaient du changement. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en 2027,
Sébastien,
on a un retour de
Sébastien,
bâton.
Est-ce que vous pensez que ce sont les médias qui dictent aux Français encore aujourd'hui leur vote?
Ben on le sait tous, les médias ça façonne quand même l'opinion et ça oriente les choix politiques.
Bon, Farid, si je peux me permettre,
pourquoi les ultra riches investissent dans les médias? C'est qu'il y a, il y a un intérêt. On sait tous, on ne gagne pas d'argent dans les médias. Les regardez Europe 1, ils en perdent depuis toujours. Et pourtant Europe 1, on se l'arrache. Donc voilà, il faut pas se mentir, malheureusement.
Farid, si tu
as de la masse populaire et ça marche. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est la Macronie qui a gagné. Ce sont les médias de la finance. Voilà, je ne vais pas être méchant, mais c'est la finance qui a gagné tout simplement. Parce qu'on va
on vous laisse parler, vous avez le droit. Vous avez.
Et Farid, les plus pauvres.
Farid,
voilà,
on vous laisse.
La réalité, c'est mon sentiment.
Farid. Oui, mais justement, vous avez eu l'occasion d'exprimer votre sentiment, et vous voyez, comme quoi, on ne censure pas, en tout cas. Daniel.
Farid, pourquoi pas votre description des blocs médias? Il est vrai que grossièrement, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez dit. Maintenant. Je ne vois pas, quand vous dites il aurait fallu que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche qui gagne pour avoir du changement, mais comment vous imposez le changement à deux tiers qui ne veulent pas de ce changement-là? En gros, si c'est NFP, vous avez deux tiers qui ne voulaient pas de leur façon de changer les choses. Si c'est Rassemblement National, vous aviez également deux tiers qui ne voulaient pas de ce genre de changement. Et vous, personnellement, vous ne voulez pas d'un statu quo qui verrait, en gros, un centre très élargi qui gouverne. Le grand problème de la France aujourd'hui, il est là. Il est dans ces trois blocs-là. C'est comment on va réussir maintenant, et ça va être l'étape d'après, à sortir du système français qui est en train de nous paralyser. C'est l'évolution de cette 5e République et du système
De
votation.
Le défi, Daniel,
il est là.
J'ai entendu de toutes parts.
Plutôt que de s'accuser, Farid, plutôt que de s'accuser les uns les autres, il va falloir absolument qu'on sorte de cette situation,
Daniel,
parce que sinon on va être bloqué.
Ça, c'est le vrai défi, et à mon avis, ça, il y a du boulot.
Incroyable.
Parce que j'ai entendu pendant la campagne, et notamment lors des clips de campagne officielle, à chaque fois revenaient les mêmes termes, réconciliation, unité, que ce soit dans les clips de campagne de Renaissance ou même du RN ou même du Nouveau Front de Gauche. Et là, j'ai le sentiment que
il y a quand même une chose.
La France n'a jamais été aussi
au-delà des arrangements. Il y a une chose dont on est sûr. Ça, c'est quelque chose. La France est à droite.
Il a raison, Farid. On doit quand même faire notre autocritique, les médias. Moi, il y a deux points où on a été quand même tous très mauvais. C'est qu'on a.
Alors, ils ont que pas deux,
eu
ça
temps.
Va.
Ils ont, la plus, t'as raison. Ils n'ont pas eu beaucoup le temps de travailler sur leur programme, et beaucoup ont fait un copier-coller des programmes d'il y a deux ans. Mais cela dit, il n'y a pas eu de questions sur l'écologie, il n'y a pas eu de questions sur le monde de la culture. Enfin, il y a tout un tas de questionnements que les médias n'ont pas posés. Et en ça, je trouve que Farid a raison. On doit faire notre autocritique aussi.
Farid, merci d'avoir été avec nous. Nous appelons depuis les Hauts-de-Seine. Sébastien nous rejoint. On est à Arras. Bonjour, Sébastien.
Ah, enfin les gens du
Nord.
Enfin des gens bien. On est à Arras.
Bonjour, Sébastien.
Je plaisante évidemment parce que je suis de là-bas. Sébastien, vous faites quoi dans la vie?
Je suis policier.
Très bien, policier. On est à Arras ou à Reims? J'ai un doute.
Reims.
J'ai compris à Reims, mais
Bon, bien. Reims, c'est pas mal. Il y a une belle cathédrale.
Allez, ça
va. Une belle cathédrale, c'est pas mal.
C'est une région magnifique.
On est à Reims. Sébastien, dans quel état d'esprit vous êtes? Euphorique ou gueule de bois?
Eh bien, en fait, quand les résultats sont tombés hier, moi j'étais plutôt gueule de bois, parce que je vais pas vous mentir, j'ai voté Rassemblement National. Et puis, au fur et à mesure que j'ai entendu, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé BFM TV hier soir, au fur et à mesure que je les ai tous entendus hier soir, j'étais plutôt prêt à sortir le champagne, parce que, en plus, dans ma région, ça va, on est une équipe épaule.
Ouais.
je les ai tellement déjà entendus ne pas être d'accord au niveau du Nouveau Front Populaire, avec Mélenchon qui dit tout de suite que ça va être, ça doit être LFI qui doit avoir le,
quasiment,
terme au couvert, hein, qui doit être Premier ministre, les socialistes, les communistes, les écologistes qui ne veulent même pas répondre à la question et qui sont en train déjà tous de se demander comment ils vont faire pour leur dire non. Ils vont être obligés même de se faire des alliances entre eux, entre communistes, socialistes et écologiques pour écologistes pour se dire bah on va essayer de faire en sorte de pallier pour trouver non à Premier ministre.
Donc ça vous y croyez pas?
Ouais. Non, j'y crois pas du tout. En plus, pendant 2 ans, ça sera de toute façon, ça va être ingouvernable. Pendant 2 ans, ils vont pas pouvoir mettre en place tout ce qu'ils veulent. S'ils y arrivent, la gauche, alors la police de proximité, merci au niveau sécurité, on a déjà donné. Hein. Donc ils en disent, moi j'étais en plein dedans et je peux vous dire que ça marche pas. Et en fait, ils vont tous se rejeter la faute.
Donc vous pensez que en fait, ce que certains, c'était une théorie émise par certains quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution. Certains ont dit, ce qu'ils cherchaient le chaos, le RN au pouvoir pendant 2 ans, ça va pas marcher. Et puis comme ça, dans 2 ans, dans 3 ans, en 2027, le RN est éliminé. Vous pensez que ça va être tellement ingouvernable que c'est plutôt le nouveau front populaire qui va se discréditer, c'est ça?
Ah bah ils vont tous être obligés de se discréditer effectivement. Ouais. Et là, très honnêtement, c'est effectivement pour moi c'est la voie royale à Marine Le Pen comme présidente et à Bardella Premier ministre.
On en parlera à 14h ça, Sébastien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien, à Reims. Jérémy nous rejoint, on est dans les Vosges. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Jérémy, euphorie ou gueule de bois?
Ah, mais grosse gueule de bois.
Pourquoi?
Parce que les Français, ils n'ont rien compris encore une fois.
Parlez bien de votre téléphone, Jérémy, on ne vous entend pas bien.
Parce que les Français, ils n'ont rien compris.
Pourquoi?
La semaine dernière, le Front National, enfin le Rassemblement National, a plus de 10 millions de votants. On se dit, au moins les Français, ils en ont un peu marre. Et on va passer à autre chose. Et puis une semaine après, ils ont retourné leur veste.
Ils ont toujours autant de voix, même plus, un peu plus.
Mais le truc c'est pourquoi ils sont repartis à gauche.
Parce qu'ils sont contre le RN. Parce que la France n'est pas majoritairement RN. Majoritairement.
On veut pas essayer en France d'aller à l'extrême droite. Il y a des autres pays qui l'ont essayé. Ils sont encore avec l'extrême droite. Ils avancent. Mais nous, en France, on en a peur. Mais on a peur de quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié, tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Les gens, ils ont voté quoi? La retraite, le SMIC à 1600 euros. Ça s'est arrêté là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire la suite? Monsieur Mélenchon, il a parlé hier soir. Ah, mais lui, il se croit déjà Premier ministre. Il a mis les chaussettes dans la valise. Et puis il a dit, hop, moi je vais y aller.
Mais non, il fait 9% et il se prend pour le roi du monde.
Voilà, c'est ça. Il se prend pour qui, cet homme-là?
Mais
il veut
tout imposer par décret et 49-3. Dictature. Ce dont il accusait Elisabeth Borne quand elle était merci Jérémy d'avoir été avec nous dans les Vosges. Bon, en tout cas, on a entendu. Je suis étonné parce que je pensais quand même qu'on aurait quelques appels de gens qui sont soulagés, euphoriques. Comme...
Mais comment veux-tu
j'en ai vu hier soir, euphorique. Ils existent. Je suis désolé.
Oui, mais des jeunes dans la rue, place de la République, et cervelés qui comprennent pas ce qui s'est passé.
Daniel, tu caricatures pas.
Non, je caricature pas du tout.
Merci d'avoir été avec nous au 32-16. Paul, quelques messages.
C'est bizzare, à chaque fois, il casse tout.
Paul,
quand même étonnant quand même.
Daniel, Paul, quelques messages.
Rémi, c'est la vérité.
Oui, mais on va continuer de parler. On va continuer d'en parler.
C'est quand même fou.
Donc, mais chaque chose en son temps.
Oui.
Donc là, ce sont les messages. Sur Direct Studio. Et le résultat de notre consultation.
Samira qui nous dit, le fait que le RN n'est pas la majorité absolue me soulage. Je ne suis pas en euphorie, je suis rassuré. Je me méfierais toujours du RN. Ce message de Guy qui dit gueule de bois, je n'ai eu le choix qu'entre les extrêmes, extrême gauche contre extrême droite. J'ai voté blanc comme beaucoup de gens. Et Damien, la gueule de bois, ce sera quand ceux qui ont voté gauche se rendront compte qu'ils n'auront pas la retraite à 60 ans, pas de SMIC à 1600 euros net, pas d'augmentation des fonctionnaires. Ça sera la vraie gueule de bois.
Et puis c'est le résultat de notre consultation.
Poser la question, et bien c'est la gueule de bois pour 84% de nos auditeurs.
Oui, c'est assez net. Donc c'était assez révélateur les appels qu'on avait.